France Culture.
Les midis de culture. Marie Laborie.
Sexe, grog et rocking chair, c'est le titre de son troisième seul en scène entre rire et larmes. Alex Lutz sera mon invité à partir de 13h. Et comme d'habitude, c'est le débat de critique qui ouvre cette émission aujourd'hui. Deux titres de la rentrée littéraire à paraître en ce mois de janvier. Aqua de Gaspard Koenig qui sort le 9 janvier aux éditions de l'Observatoire et Désertion de François Bégaudeau, disponible le 10 janvier aux éditions Vertical. Vous écoutez les midis de culture, mais qu'est-ce qui nous arrive ? Et pour débattre aujourd'hui autour de la table, Marie Sorbier, productrice du Point Culture sur France Culture et rédactrice en chef de Yo.
Bonjour, bonjour Marie.
Johan Farber, enseignant critique et éditeur, bonjour.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à tous les deux.
La voilà qui se fracasse contre le sol à pleine vitesse. Tout au long de sa chute, secouée et tremblante comme un pilote en piqué, elle est parvenue à conserver sa forme sphérique. Ce n'est pas une larme, car le ciel ne pleure pas. C'est une balle lancée à l'attaque de la Terre. Au moment de l'impact, elle n'a aucun regret. Elle sait qu'elle reviendra sous une forme ou sous une autre, comme depuis des milliards d'années. Elle explose dans un bruit sourd, soulevant une gerbe de boue. Tout autour d'elle, des millions de ses semblables se jettent elles aussi à l'assaut. Elle se brise en une nuée de postillons, comme autant de reproductions microscopiques d'elle-même. C'est là que leur destin diverge, au hasard des vents qui les dispersent, des courants qui les absorbent ou des failles qui les attirent dans les profondeurs. Gouttes et gouttelettes, fragiles et éternelles, incessamment défaites et recomposées, charriant leurs milliards de molécules bien empaquetées, serrées les unes contre les autres comme des amoureuses inséparables. Tout animé par une seule et unique mission, suivre la pente.
Et on commence avec le nouveau roman de Gaspard Koenig, Aqua, qui sort le 9 janvier prochain aux éditions de l'Observatoire. Après son roman Humus, paru en 2023, qui faisait donc l'éloge du lombric, le philosophe et essayiste, converti à l'écologie, s'intéresse à la gestion de l'eau dans un village normand. C'est d'ailleurs le même territoire que dans son précédent livre, et on retrouve d'ailleurs certains personnages. On voit donc s'affronter un haut fonctionnaire qui revient dans sa région et brigue la mairie, et une jeune femme idéaliste qui défend l'autogestion et le bien commun. On commence en quelques mots d'abord, Marie Sorbier.
Bien, j'ai ri, ce qui est quand même un bon point, même si je pense que j'ai ri un peu contre l'auteur, mais après tout, qu'importe. C'est un roman de malin, c'est-à-dire que l'auteur sait parfaitement de quoi il parle. Il joue avec les codes de la politique locale et nationale, en usant, voire abusant de la caricature. Mais le problème pour moi est un peu plus profond, c'est-à-dire en refermant le livre, j'ai été pris par une flemme gigantesque de l'engagement public et je ne sais pas si c'est le bon moment pour lancer ça.
Johan Farber, quelques mots également.
J'ai trouvé que ce roman, pour être divertissant, était aussi problématique politiquement, parce qu'il traitait d'une question, celle de la guerre de l'eau, mais avec une forme narrative très vieillie, pour ne pas dire néo-naturaliste. Ensuite, il transforme ce qui pourrait être une fable écologique en farce écologique où la politique est discréditée. Et enfin, pour un roman sur l'eau et l'inondation, le romanesque se retrouve très vite à sec.
Alors, Marie Sorbier, là, vous êtes d'accord pour le coup sur le problème du regard sur la politique, en fait, et de l'engagement politique.
Oui, ça, c'est presque ce qui aurait pu m'intéresser le plus, parce qu'en fait, il oppose, alors c'est assez classique, hein, mais il oppose la gestion municipale d'un tout petit village de quelques centaines d'habitants, vraiment perdu dans une Normandie, on a l'impression que c'est fin fond du désert, hein, quand il le décrit, on est très très loin de toute terre habitée, et la politique nationale, c'est-à-dire les coulisses des cabinets ministériels, puisque la personne dont vous parliez, le fameux Martin, brigue un mandat à la mairie, parce qu'en gros, au ministère, on lui a dit, si tu n'as pas de mandat local, tu pourras jamais grimper les échelons dans le ministère, il te faut un ancrage, et donc il se dit, bon bah, je vais retourner dans le village d'où je suis originaire. C'était les municipales, il se présente. Donc, il y a ce double rapport municipal-national, et évidemment, ça donne lieu à des énormes caricatures. Johan a employé le mot de farce, c'est très juste. Il tire, en fait, Gaspard Koenig, vraiment, cette fibre-là. Alors, moi, ça a commencé par me faire rire, parce que, notamment dans les dialogues sur les conseils municipaux, dans les coulisses du ministère, il y a quand même des dialogues c'est savoureux, mm-hmm. parce qu'encore une fois, je crois que Gaspard Koenig sait de quoi il parle, et donc on sent beaucoup de véracité là-dedans. Il a dû reprendre plein de petites phrases entendues ici ou là. Donc quand on s'intéresse un peu à la politique et qu'on le lit de façon divertissante, ça marche. Parce que ce qu'il faut quand même dire en positif, c'est que c'est un roman qui est bien construit. Ça fait un peu plus de 400 pages, donc c'est quand même assez épais. Je pense qu'il aurait pu condenser un petit peu tout ça et dire la même chose, mais quand même, il retombe sur ses pieds. Les personnages existent, ils sont tous caricaturaux à l'extrême,
alors,
mais
ils existent. Les personnages, moi, je les ai tracés à grands traits, mais alors on a ce haut fonctionnaire.
Il y a ce haut, en fait, en gros, il y a Paris et la province, donc on a ce haut fonctionnaire et les cabinets ministériels et la préfète, disons l'État, et puis le village qui est composé dans le livre d'une dizaine de personnages qui existent vraiment, avec cette Maria qui va donc devenir mère par défaut, qui est une Roumaine, donc qui a été accueillie en France, qui a fait ses études là, et puis qui se retrouve mère, et puis tout le conseil municipal qu'elle attire autour d'elle, donc principalement des agriculteurs ou des gens qui viennent de s'installer. Donc évidemment, le registre de langage n'est pas le même quand on est en province ou à Paris, et il joue quand même beaucoup de ça, et de la drôlerie du départ, finalement, on arrive à un problème politique. Et là, je vais rejoindre Johan, c'est que ce qu'il dit Gaspard Koenig, c'est qu'en gros, il y a trop d'État. Il est contre l'État. L'État est partout.
Le libéral revient au galop.
Exactement. Et il y a trop de fonctionnaires. Finalement, plus on avance dans les pages, on s'aperçoit, mais l'État, à part mettre le bazar, il fait pas grand-chose. Il aide pas les gens. Et donc, il faut que les paysans reprennent le droit sur leurs terres et qu'on soit en autogestion. Et finalement, tout ira mieux. Voilà, je suis pas sûre, il a le droit d'avoir cette idée-là, hein, mais je suis pas sûre que le roman, et en tout cas la forme qu'il en a faite, était la meilleure démonstration possible.
Johan Farber.
Bah non, je pense que c'est pas la meilleure démonstration possible, parce que comme je le disais tout à l'heure, pour moi, c'est totalement paradoxal, c'est-à-dire qu'il y a une vraie question de fond et d'actualité, qui est la guerre autour de l'eau, la sécheresse, les précipitations en nombre. D'ailleurs, ça s'ouvre sur une description d'un déluge qui tombe sur le village. Je me dis, tiens, c'est Blade Runner avec des tracteurs. Non, ça s'interrompt. Mais en fait, cette question d'actualité dont tout le monde parle, et qui est la vraie grande question, elle est traitée dans une forme narrative qui, en fait, est une forme d'idéologie pure, c'est-à-dire, en fait, il fait comme Zola après les Rougon-Macquart, c'est-à-dire il prend une question d'actualité comme Zola l'a fait avec les quatre évangiles, et là, en fait, il la traite en mettant en forme des préjugés sur la province, sur la modernité. La province, elle est forcément archaïque, la modernité à Paris, elle est forcément citadine, elle a une autre sexualité, pour pas dire homosexuelle, alors que, justement, on est plutôt dans quelque chose qui est beaucoup plus traditionnel à la campagne. Et ces oppositions binaires, en fait, elles ne donnent lieu finalement qu'à une caricature politique, et qui, en fait, chez Zola n'existe pas. Cette caricature politique chez Zola, elle est défaite, en fait, par la puissance de l'écriture, par ce qu'on appelle le réalisme mythologique de Zola, où à un moment, par exemple, on se souvient tous de la lecture de La Bête humaine, la locomotive devient une métaphore folle qui court dans tout le texte. Le passage qu'on a entendu à l'instant et qui a été lu, c'est l'incipit du livre, et il ne reflète pas du tout le livre, parce que là, on a droit à un morceau de poésie et d'écriture, où effectivement on pourrait croire que on est dans du Maurice Genevoix, du Giono sur la nature, où il sort sa plus belle mandoline pour chanter les vertus de l'eau, mais en fait
c'est le seul moment d'ailleurs,
c'est le seul moment, et à aucun autre moment l'écriture n'apparaît. Et d'ailleurs c'est assez révélateur, ils sont tous les personnages parisiens issus d'une promotion de l'ENA qui s'appelle comme par hasard Émile Zola, parce que c'est véritablement le véritable, je dirais, emblème romanesque de cette fable, qui est une fable écologique, mais qui tourne par la caricature très vite à la farce écologique, où toutes les positions, en fait, sont réversibles. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de finesse. C'est-à-dire que, par exemple, Maria, dont on parlait tout à l'heure, la mairesse par défaut, eh bien, elle va se ranger à la vie de quelqu'un d'autre. Celui, le Martin, qui vient de la ville, va se ranger à la vie des paysans. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que de l'inversion de position, et il n'y a pas d'entre-deux, d'ambiguïté. Les personnages sont vraiment des pantins, c'est-à-dire ils sont vraiment très plats, et il n'y a pas de véritable incarnation des personnages. Et cette absence d'incarnation des personnages fait qu'il n'y a pas de feuilleté dans la politique, et que ils n'ont pas d'hésitation. Ils n'ont pas d'hésitation, ils n'ont pas d'atermoiement, ils ont, en fait, chacun suit sa ligne, comme une espèce, finalement, de roman feuilleton où, tel personnage est assigné à tel rôle, et s'il change de rôle, il va prendre le rôle de quelqu'un d'autre. Mmh. Donc, il n'y a pas véritablement de finesse, dire un petit peu méchamment.
Ouais, alors, sur tous ces personnages, puisque finalement, il fait apparaître pas mal de personnages, il a un talent de portraitiste.
Alors, moi, je suis moins dure que Johan sur le côté des personnages, et notamment sur les personnages à la campagne. Alors, encore une fois, c'est très caricatural, hein. Je suis d'accord sur le manque de finesse. Nunez, il n'y en a pas. Moi, je pense que c'est son parti pris, enfin j'espère, en tout cas c'est comme ça que je l'ai lu, de faire un portrait à gros traits. C'est-à-dire, s'il y a portrait, c'est vraiment des grosses ficelles, mais il parvient quand même, dans cette petite tribu, c'est quand même une communauté qu'il décrit, à donner en effet un rôle à chacun, mais en fait on le comprend vite, c'est pour ça que les ficelles sont grosses, le rôle va avoir une importance dans son développement théorique à lui. C'est-à-dire que, en fait, Koenig, il sait où il va, en fait, il sait très bien ce qu'il veut dire, et il se sert de la littérature pour affirmer une opinion politique, un propos politique. Après tout, pourquoi pas, il y en a d'autres qui l'ont fait, c'est pas un problème. Sauf que, là, la littérature est vraiment un prétexte, en fait, et ça finit par se sentir. Le roman est un prétexte. Comme l'eau, d'ailleurs, qui pourrait être le sujet, ça s'appelle À quoi, ça aurait pu. Pour moi, en fait, très vite, elle a été un prétexte à autre chose, qui est vraiment cette guerre Paris-Province, et surtout, l'engagement, c'est-à-dire, je trouve que c'est un livre terrible sur ce que veut dire s'engager en politique aujourd'hui. On est quand même dans une année de municipale, hein, donc voilà, c'est dans 3 mois. On le sait, il y a plein de régions en France où il n'y a plus personne qui se présente pour être maire, c'est quand même un mandat qui est complètement délaissé. Et je trouve que quand on écrit un livre comme ça, c'est pas leur rendre service, parce que je sais pas qui peut avoir envie de s'engager sur un quelconque sujet quand on lit ça, parce que même les personnes de bonne volonté qui s'y engagent se retrouvent face à un mur, le mur de l'État qui est décrit comme complètement troué de l'intérieur, comme complètement manipulable. Et en fait, vous disiez, il n'y a pas d'hésitation, mais moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il n'y a pas de conviction, en fait, dans ce livre. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne croit pas à la force publique, on ne croit pas à l'État, il le dit d'ailleurs très bien à la fin, hein, c'est pas caché. Et moi, ça m'a donné quelque chose d'assez dur, en fait, c'est triste, voilà. Je trouve ça triste sur la politique française qu'il décrit. Alors, c'est certainement ce qu'il pense, mais je pense qu'on peut la valoriser autrement, et notamment par ses mandats locaux, alors qu'il y a 1000 choses à faire, il les réduit, en fait, à un lieu de non-pouvoir. Ils sont manipulés par le préfet à côté, par le maire de la commune plus grosse, et eux n'ont rien entre leurs mains. Alors, je fais une petite parenthèse sur les dernières pages, parce qu'évidemment, il y a un retournement de situation. Il revient à plusieurs reprises dans le livre sur une théorie sociologique, économique.
Socio-économique,
qui s'appelle la théorie des communs. Et en fait, qui va relier ces deux personnages antinomiques, qui sont donc Maria, la mère par défaut, et Martin, l'énarque. Maria a fait une thèse de sociologie dans sa jeunesse et adorait cette théorie des communs. Elle essaie de l'appliquer, ça marche pas du tout, parce qu'elle a pas les outils, en fait, étatiques pour les mettre en place dans ce village. Martin, lui, a les outils, mais ne connaissait pas cette théorie. Or, quand il prend finalement la place de maire, il va retrouver ce livre, il se met à le lire, et il trouve ça très intéressant. Là, je trouve qu'il y a 2-3 pages qui auraient pu être intéressantes sur cette théorie des communs, parce que Koenig l'a décrit, qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce qu'on peut gouverner sans hiérarchie, bon, si je fais un peu rapide, c'est ça, sauf qu'en fait, il en fait un peu un exposé, un exposé, comment
c'est
dire,
Wikipédia, quoi.
Oui, un peu Wikipédia, alors que moi, cette théorie, elle m'intéressait, quand il a commencé à en parler, je me suis dit, bah vas-y, développe, c'est ça qu'on veut savoir, est-ce qu'il y a une solution à ton problème, tu dis que l'État est pas possible, qu'est-ce qu'on fait à la place, il offre une théorie, mais il l'explique vraiment en s'adressant à des étudiants, quoi, et donc ça, c'est un peu frustrant.
Mmh. C'est un peu noyé d'ailleurs, sans mauvais jeu de mots, parce que c'est dilué tout au long du livre, cette théorie des communs. Et puis là, on voit que c'est vraiment la limite de la forme narrative qu'il a choisie, parce que, en fait, c'est de l'éditorialisme narratif. Mmh. C'est vraiment de l'éditorialisme narratif, c'est-à-dire, comme vous l'avez très bien dit, Marie, il a choisi son point de vue, et il le mène depuis le début. Et ce point de vue, c'est un point de vue éditorialiste, et ça ne produit pas, en fait, de manière romanesque, quelque chose qui est trépidant pour le lecteur, même si la lecture est agréable.
Oui, c'est pas désagréable à lire.
C'est pas du tout désagréable à lire, ce qu'il faut qu'on dise à nos auditrices et nos auditeurs. Mais en fait, le problème, c'est qu'il regarde du côté de Zola. Et moi, je trouvais que tout ce que vous avez décrit à propos de la politique est juste. Et en fait, ce roman, il pointe vers Barrès. En fait, on voit que le modèle politique, et qui explique un petit peu ce confort passéiste, c'est que le modèle, c'est la Troisième République. Et cette Troisième République, d'ailleurs, il y a un lapsus à un moment qui est très révélateur. Au lieu d'appeler la professeure des écoles, il appelle l'institutrice. Oui. Comme si on était au cœur de la Troisième République. Et c'est vraiment ce que Barrès appelait le roman idéologique. Or, Barrès, c'est pas un bon romancier. Barrès, il a toujours été vraiment très médiocre et il imposait ses vues à travers une forme romanesque. Et je crois que Gaspard Koenig est plutôt sur les traces de Barrès, c'est-à-dire quelqu'un qui réfléchit à la terre, au terroir, qui le valorise et qui discrédite la politique. Le caractère de discrédit de la politique qui a porté Barrès, notamment, et toute l'œuvre de Barrès, elle se retrouve ici, au cœur de l'œuvre de Gaspard Koenig. Et c'est vraiment bien dommage parce que il a quand même un talent de romancier.
À quoi de Gaspard Koenig, sorti le 9 janvier prochain, c'est aux éditions de l'Observatoire.